Hier, après un peu plus de 3 jours de discussion, les députés ont voté en première lecture l'article 1er du projet de loi sur la bioéthique qui prévoit d'étendre aux femmes célibataires et aux couples de lesbiennes l'accès aux techniques de procréation médicalement assistée dites PMA. 55 ont voté pour, 17 contre, 3 se sont abstenus. Et si l'on en croit les journaux, dans l'hémicycle, il fut question parfois de droits des femmes, beaucoup de la figure du père et très fréquemment de l'intérêt supérieur de l'enfant. Invité de la deuxième heure de ces matins du samedi, Jean-Louis Touraine. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Député du Rhône, La République En Marche, vous êtes le rapporteur de la mission d'information sur la loi bioéthique et par ailleurs vous êtes professeur de médecine. Est-ce que c'est une victoire ce qui s'est passé hier ?
Je pense que c'est une victoire pour les femmes en général, pour la justice et pour la reconnaissance aussi de la possibilité d'épanouissement des couples de femmes homosexuelles ainsi que des femmes seules. Dans le passé, de façon un petit peu autoritaire, dans un monde un peu issu du patriarcat, les hommes avaient décidé qu'ils organisaient eux-mêmes, selon leur vision, la façon unique de faire famille, qui était avec, comme c'est souvent la tradition, au moins dans l'Europe occidentale, un mari, une femme, des enfants et des conditions et qui étaient encadrées. Et puis, sous d'autres continents, il y a d'autres façons de faire famille, mais surtout est apparue, dans la deuxième moitié du XXe siècle, la nécessité de reconnaître les couples homosexuels. Ça a été le mariage pour tous en particulier. Et maintenant, c'est la possibilité pour ces couples de femmes qui ont le droit d'adopter des enfants, qui ont le droit de les éduquer, qui ont montré tout l'amour qu'elles pouvaient donner à ces enfants, ben c'est le droit de pouvoir elles-mêmes enfanter et faire une famille. En vérité, cela se réalisait déjà depuis plusieurs années, soit par ce que l'on appelle les PMA artisanales, c'est-à-dire qu'elles s'organisaient un petit peu comme elles pouvaient pour enfanter. C'était pas une grande sécurité, ni médicale, avec des risques infectieux, ni juridique, avec des risques de contestation de paternité, mais surtout, c'était très aléatoire et d'autres femmes, pour avoir une meilleure sécurité, allaient en grand nombre, en Belgique, en Espagne, dans d'autres pays, pour bénéficier de cela. Mais bien sûr, c'était seulement les femmes fortunées qui pouvaient le faire. Donc il y avait une injustice. Et maintenant, tous les couples de femmes pourront, si elles le souhaitent, donner naissance à des enfants. De même que les femmes seules. Les femmes seules, il ne faut pas du tout croire que ces femmes seules qui vont faire une PMA sont comparables aux femmes qui sont, dans des cas de famille monoparentale subie, qui sont souvent un peu en difficulté. Elles n'avaient pas souhaité être seules avec leur enfant. Elles ont été parfois abandonnées par leurs compagnons. Elles ont une difficulté à organiser conjointement leur vie de famille et leur profession. Et elles ont besoin souvent d'aide sociale pour arriver à survivre, en définitive, avec leur enfant. Là, c'est le contraire. C'est une femme qui réfléchit pendant des mois et des années comment faire famille, qui prévoit avec ses proches, amis, famille, comment accueillir l'enfant, comment lui donner beaucoup de temps et d'amour. Et en définitive, toutes les études montrent que ces enfants qui naissent chez les femmes seules, par PMA, ou chez les couples de femmes, ou dans les couples hétérosexuels, comme ça se faisait jusqu'à maintenant, eh bien tous ces enfants se développent et s'épanouissent exactement de la même façon. Et il y a donc de quoi être rassuré pour l'enfant, parce que vous l'avez dit, la chose la plus importante pour nous, en particulier pour les députés, c'est bien de garantir l'intérêt supérieur de l'enfant.
Jean-Louis Touraine, on prédisait des débats enflammés sur ce premier article. 600 amendements avaient été déposés. On disait que ça allait être l'équivalent justement du débat sur le mariage pour tous en 2013. Or, manifestement, cela a été relativement calme. La manifestation des opposants est prévue dimanche 6 octobre, c'est-à-dire après le vote de la loi. L'hémicycle était relativement clair. Mais comment vous expliquez que finalement ces débats aient eu lieu dans le calme et sans invective ?
Personnellement, moi je prédisais un débat apaisé, serein, avec des opinions diverses, comme c'est normal, comme c'est légitime. Comme
vous
c'est
étiez
bien.
À peu près le seul, avec la majorité qui veut de toute façon que cette rentrée soit apaisée, à le dire autour. Tout le monde pensait quand même que ce serait beaucoup moins apaisé que vous le prétendiez.
Il a même fallu rassurer le président de la République et quelques autres membres et quelques membres du gouvernement pour leur dire que nous étions non seulement confiants, mais certains qu'avec toute la préparation qui avait été faite depuis 2 ans, par des réunions multiples, des auditions, avec des députés de tous bords, que tout cela se passerait au niveau de l'Assemblée nationale, dans un climat de courtoisie réciproque, avec un respect mutuel entre ceux qui sont pour et ceux qui y sont défavorables, et que bien sûr chacun essayerait au décours d'un amendement de modifier un petit peu tel ou tel détail de la loi dans un sens ou dans l'autre, mais que globalement les choses seraient votées sereinement. Et je pense que cela s'est passé parce que il n'y a pas eu d'idéologie excessive, c'est-à-dire que ce qui a été réalisé, c'est un respect d'opinions diverses, mais sans que personne ne considère que l'autre était illégitime à avoir une position différente.
Il y a quand même eu des débats au sein même de la majorité, et j'ai pu lire que certains des députés se sont appuyés sur leur histoire personnelle. Est-ce que ça veut dire, Jean-Louis Touraine, que on est vraiment au-delà des clivages politiques avec ces questions de bioéthique, qu'on est sur des convictions intimes, ce qui d'ailleurs provoque parfois des passions, puisque justement c'est des choses qui sont très profondes dans chacun.
Vous avez raison, ça provoque des passions, mais des passions au sens où c'est passionnant, en même temps que ça peut être passionné. Et c'est vrai que c'est la difficulté pour ces questions, surtout en France. On est quand même un peu un pays latin, et ça provoque beaucoup d'émotions. Nous ne sommes pas sur un sujet qu'on peut traiter que de façon rationnelle. Vous le savez bien, nous avons un double cerveau, si je peux dire, l'un plus rationnel, l'autre plus émotionnel. Et les deux sont vraiment éveillés lorsque nous traitons ces sujets-là. Et personne ne peut totalement s'exonérer de sa vie personnelle, de ses relations amicales, et chacun a des épisodes, des anecdotes à raconter. Il faut savoir prendre un peu de distance avec cela pour ne pas décider des choses aussi importantes qu'une loi sur une anecdote ou une émotion. Mais il est normal. Il est normal que nous passions par ces étapes-là. Et d'ailleurs, le plus d'émotions a été éprouvé lorsque nous avons auditionné pendant des heures et des heures des personnes concernées, des femmes qui attendaient ces avancées depuis des années, dont certaines étaient presque désespérées, des enfants qui s'étaient développés dans des couples de ce type-là et qui disaient leur bonheur. Et j'ai encore en mémoire le souvenir de cette enfant devenue grande maintenant, qui nous disait, mais vous me posez la question, est-ce qu'un père me manque, est-ce que je voudrais qu'on m'attribue un père, mais pourquoi faire, moi j'ai deux mamans qui m'aiment, je les aime, si vous voulez me mettre un père, vous allez m'enlever une de mes deux mamans qui m'aiment, moi je suis parfaitement épanoui comme ça, des hommes, bah j'ai un oncle et un grand-père, mais mes deux mamans, je veux les garder.
Vous mettez le doigt précisément, Jean-Louis Touraine, sur ce qui pose question, sur un point sensible qui a été d'ailleurs soulevé cette semaine par l'Académie de médecine. Vous parliez tout à l'heure, vous, d'un changement de société dans la conception de la famille. C'est sur ce point-là que l'Académie de médecine a émis des réserves en estimant, et je vais la citer, que la conception délibérée d'un enfant privé de père constitue une rupture anthropologique majeure qui n'est pas sans risque pour le développement psychologique et l'épanouissement de l'enfant. Qu'est-ce que vous répondez à ceux et celles qui expriment leur crainte précisément sur le développement de l'enfant ? Vous leur répondez simplement, on a des études qui montrent que tout va bien ?
Non, je les comprends et la question mérite d'être posée. Nous avons tous des préjugés et ces préjugés sont bien ancrés en nous. Einstein disait d'ailleurs que ces préjugés se désintègrent plus difficilement que l'atome, et il connaissait bien et l'atome et les préjugés contre lesquels il avait dû lutter. Au départ, nous disons, puisque nous avons souvent été élevés par un père et une mère, bien tout ça nous est nécessaire. Nous le croyons, sincèrement. Et la question mérite d'être posée, est-ce que si on n'a pas cela, est-ce qu'on aura un handicap ? Sauf que quand des études sont conduites, en grand nombre, dans les pays anglo-saxons essentiellement, et en Europe du Nord, on constate que les enfants vont aussi bien quand ils sont élevés par un couple de femmes que par un couple d'hommes. Et ceci s'explique très précisément quand on écoute les enfants. Il faut pas écouter les adultes quand on parle du développement initial de l'enfant. Il faut écouter les enfants. L'enfant, au départ, trouve normal la famille dans laquelle il vient au monde. Un enfant qui vient avec une mère seule, il trouve normal d'avoir une mère seule auprès de lui le soir. Un enfant qui vient avec un couple de femmes, c'est ça la famille normale. Plus tard, il va à l'école. Quand il va à l'école, il voit que ses petits camarades, ils ont un père et une mère. Il dit, tiens, c'est étrange, il y a des gens qui ont des familles différentes de la mienne. Bon, mais il tolère ça très bien et il trouve que c'est très sympathique que chacun ait une famille diverse. Après, il voit que les familles avec hommes et femmes sont plus nombreuses que ça. Bon, ben, il dit voilà, il y a cette diversité, puis eux, ils sont plus nombreux que... Mais je suis bien comme ça, et eux, ils sont bien comme ils sont. Et cette adaptabilité qui est infinie de l'enfant, il ne faut pas la sous-estimer. Les enfants n'ont pas nos a priori d'adultes, et je crois que c'est cela qu'il faut méditer. Quant à l'opinion de l'Académie de médecine... Elle a été émise en contradiction totale avec l'opinion du Comité national d'éthique, avec l'opinion du Conseil d'État, avec l'opinion de...
Oui, mais elle reflète les inquiétudes de...
Elle reflète des inquiétudes.
Partie.
Voilà, des inquiétudes a priori que je trouve très légitimes. Moi-même, comme tout le monde, je me suis posé la question. Mais quand on se pose une question, il faut faire des études, il faut regarder les résultats des études, et c'est seulement là-dessus que l'on peut se baser. Nous avons les éléments qui nous permettent d'être totalement rassurés. Il n'y aura pas de difficultés liées à l'absence de père. Il y a des référents masculins dans toute famille, mais le père en lui-même, comme la mère d'ailleurs, peuvent être substitués. D'ailleurs, ne confondons pas le genre et la fonction. C'est vrai qu'au XIXe siècle, le père avait un rôle purement d'autorité dans une famille, quand il était présent d'ailleurs, et la mère avait un rôle de pour délivrer l'amour, pour entourer l'enfant d'affection et de douceur. Bon, c'est révolu, ça. Aujourd'hui, vous le savez bien, les pères actuels savent très bien dire leur amour à leur enfant, et les mères n'attendent pas le retour du père le soir.
Donc on s'assoit sur un siècle de psychanalyse.
Non, pas du tout. Si vous écoutez Françoise Dolto, elle vous dira la même chose. Enfin, ses livres, plutôt.
Tous ne disent pas la même chose. D'ailleurs, cela dit, il n'y a pas une seule psychanalyse, bien entendu.
Ah ben,
mais enfin, certains renvoient à vos études des expériences psychanalytiques, cliniques.
Non.
Qui viennent contredire ce que vous dites.
Non.
Sur l'altération, la notion de différence, sur le risque que l'enfant prenne place, la place du père. Bon.
Non, ce sont pas des expériences. Ce sont des anecdotes. Et la psychanalyse, est très utile, mais elle part de cas cliniques isolés. C'est très important ce qu'on peut analyser à partir d'un cas isolé. Mais par définition, l'enfant qui vient voir un psychanalyste ou un pédopsychiatre, c'est un enfant qui est en difficulté. Alors, il est dans une famille hétérosexuelle, homosexuelle, d'un type ou d'un autre, mais il a été sélectionné parce qu'il a des problèmes. Il faut voir des études aussi qu'on appelle longitudinales, avec des cohortes d'enfants, c'est-à-dire vous prenez 50 ou 100 enfants qui sont suivis de la naissance jusqu'à 25 ans et vous les étudiez sous tous les aspects. Je peux vous assurer que ceux qui ont réalisé ces études voulaient au départ démontrer les différences. Ils cherchaient les différences entre les enfants élevés par un couple de femmes ou un couple hétérosexuel. Ils ont tout mis en œuvre pour essayer d'identifier des différences. Ils n'ont absolument rien trouvé. Même pas d'ailleurs, bien sûr, dans l'orientation sexuelle ultérieure après leur adolescence. Et ils n'ont vraiment que pu constater cette adaptabilité formidable des enfants qui fait mentir ceux qui avaient des craintes irraisonnées. Et je crois que c'est ces études-là que je conseille à mon ami Jean-François Mattei et aux quelques académiciens qui l'ont accompagné, de lire en détail pour se rassurer. Je ne veux pas leur changer leurs opinions. Je ne veux pas leur dire que eux-mêmes doivent adopter d'autres modes de vie que celles que leur tradition leur dicte, mais je leur demande de vraiment analyser, comme ils le font très généralement bien à l'Académie de médecine, avec rigueur, avec esprit scientifique, et de se dire que une bonne partie de leurs craintes sont excessives.
Il est 8h30 sur France Culture. Le député La République En Marche, professeur de médecine et rapporteur de la mission d'information sur la loi de bioéthique, Jean-Louis Touraine, est notre invité.
France Culture, les matins du samedi, Caroline Brouet.
Jean-Louis Touraine, certains de vos détracteurs, je pense à un exemple, parce qu'elle était l'invitée de France Culture et d'Emmanuel Laurentin cette semaine, la philosophe Sylviane Agacinski. Certains comme elle, par exemple, pensent que le débat est trop confisqué par un discours hégémonique, dit-elle, et notamment au gouvernement, selon lequel le problème n'est pas éthico-juridique mais social, et qui considère, ce discours hégémonique, que le débat est là pour répondre à des demandes sociales. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ces remarques qui sont des critiques entendables par rapport au projet de loi bioéthique dont vous êtes, je le rappelle, le rapporteur?
Si tout s'est passé de façon apaisée, c'est parce que nous avons entendu des personnes comme Sylvia Nagasinski et d'autres avec des positions plus conservatrices et en respectant leur point de vue, en comprenant que de leur part, ce n'est pas des réactions d'intolérance, mais simplement la résurgence de réflexion et de philosophie plus traditionnelle. Madame Nagasinski est un très bon philosophe, mais imprégné des idées naturalistes, que probablement j'aurais partagé moi-même il y a quelques siècles si j'étais né plus tôt. Mais depuis que la médecine a progressé, depuis que on a fait disparaître cette horreur qui était la sélection naturelle des enfants, avec la moitié des enfants qui mouraient avant d'atteindre l'âge adulte, d'infections ou d'autres maladies, depuis que la longévité est passée en moyenne de 30 ou 35 ans à 80 ans pour l'espèce humaine, je n'ai pas envie de revenir en arrière.
Mais ça veut dire qu'en matière bioéthique, la loi doit suivre les évolutions de la société, qu'il n'y a pas de principe immuable?
Mais écoutez, madame, la contraception existe aujourd'hui. Donc les femmes choisissent le moment où elles ont des enfants. Ce n'est plus comme dans le passé où l'enfant arrivait par hasard et il fallait s'adapter. Et évidemment, il y avait des avantages à cette arrivée de l'enfant par hasard parce qu'il arrivait à un âge de meilleure fécondité des hommes et des femmes qui étaient très jeunes. Mais aujourd'hui, les gens choisissent le moment où ils accueillent leur enfant. Le gros avantage, c'est que maintenant, avant même que l'enfant ne soit conçu, il est attendu, il est espéré, il est aimé. Les femmes d'aujourd'hui aiment leur enfant quand il est dans leur ventre, pas après la naissance. Elles l'aiment déjà avant même d'avoir senti les premiers mouvements au sein de leur utérus. Eh bien, moi, je crois que cette évolution, elle n'est pas négative. Je crois qu'il faut conseiller à ces philosophes naturalistes d'avoir un peu confiance en l'homme. Oui, il y a une aventure humaine. Non, nous ne sommes pas seulement des fruits de la nature qui devons rester dans l'état de nature où peut-être nous avons été créés, ou plus évidemment, nous sommes les héritiers des espèces animales dont nous avons dérivé par la sélection naturelle qu'avait décrite Darwin et qui a été depuis complétée. Ben oui, cette évolution, elle a commencé bien avant nous, puisque les dinosaures sont restés sur Terre beaucoup plus longtemps que les humains. Cette évolution, elle s'est faite dans toutes les espèces animales, elle se fait dans l'espèce humaine. L'homme d'aujourd'hui est différent de l'homme de l'Antiquité, même si, en termes de raisonnement, les antiques étaient déjà extraordinairement élaborés, et si cette réflexion elle est lente, mais nous avons pu conquérir des bénéfices, des bienfaits, nous ne devons pas nous en priver. Ce n'est pas faire une confiance excessive, ce n'est pas de l'outrance. Et quand je peux échanger par tribune interposée avec Madame Nagasinski, je pense qu'elle considère, comme certains de mes opposants de l'Assemblée nationale, que je préconise un peu trop de confiance dans le progrès et qu'elle pourrait imaginer, comme ils me l'ont dit, que je suis, entre guillemets, un peu libertaire. Mais quand je voyage et que je rencontre mes amis médecins américains, ils me disent « Mais qu'est-ce que toi, le petit Frenchie là, qu'est-ce que tu es conservateur par rapport à nous ?»
Mais ils ne sont pas forcément un modèle.
Ils ne sont pas un modèle. Mais je ne dis pas non plus que les ultra-traditionnalistes sont un modèle. J'essaye de me situer dans un milieu entre ceux qui refusent les avancées et ceux qui veulent les faire à tout prix sans prendre des précautions. La France a eu un très grand mérite au moment de la Révolution, c'est de nous donner une devise républicaine avec le triptyque liberté, égalité, fraternité. Je crois que la liberté est importante, mais parce que je sais que cette liberté ne doit pas être absolue, qu'elle ne doit pas empiéter sur la liberté des autres et qu'elle doit toujours être matinée de ce désir d'égalité et de fraternité, je ne suis pas du tout un libertaire. Je pense que quand il n'y a aucun inconvénient à pouvoir développer sa liberté, faisons-le. Chaque fois que ça peut soit mettre en péril des valeurs fondamentales ou mettre en péril la liberté des autres, là nous devons au contraire restreindre nos libertés.
Vous faites paraître, il y a quelques jours, je crois que le livre est tout récent, un livre intitulé « Donner la vie, choisir sa mort », sous-titre pour une bioéthique de liberté. C'est quoi la bioéthique de liberté? Le libéralisme en bioéthique par différence avec le libertarianisme que vous n'êtes pas?
Eh bien, en 1994, la France a été le premier et en définitive presque le seul pays à se doter d'une loi qui couvre toute la bioéthique. Et comme cette loi a été faite avec l'esprit du droit romain que nous avons en France, elle a voulu traiter tous les sujets et encadrer tout par des interdits. Et donc ça a été une loi que je qualifierais principalement d'interdit. Tout ce qui n'était pas parfaitement maîtrisé était interdit. Donc les transplantations d'organes ont été très restreintes, avec des possibilités très réduites de dons d'organes dans la famille. Les recherches sur l'embryon ou sur les cellules sous-embryonnaires interdites. Évidemment, ce dont nous parlons aujourd'hui, l'extension de la PMA, bien entendu, était interdite. Enfin, beaucoup de choses ont été interdites, beaucoup de choses qui existaient en France. Vous le savez peut-être, mais la PMA et la GPA existaient avant le début des années 90 en France. Donc tout a été interdit. Depuis, nous en sommes à la troisième révision de la loi, et chaque fois, eh bien, nous réouvrons quelques-unes de ces portes qui interdisaient, parce que nous nous rendons compte que les interdits ont été beaucoup trop sévères. Et puis aussi parce qu'avec l'expérience, nous savons que nous pouvons permettre des choses avec un encadrement qui évite toute dérive. Ce qui hier faisait peur aux législateurs, aujourd'hui, on sait qu'on peut l'autoriser, et avec le contrôle de l'Agence de la biomédecine, par exemple, eh bien, on sait qu'il n'y aura pas de dérive, qu'il n'y aura pas de savant fou qui fera des choses inquiétantes. Nous savons où il faut arrêter les applications du progrès. Donc, vous le voyez, je ne suis pas un progressiste à tout craint, ni un libertarien, mais je pense que vouloir progresser, vouloir avancer, c'est ce que nous demande la majorité de la population française. Tous les sondages sont là pour le prouver. Nous sommes, nous, députés et responsables de toute nature, souvent un peu en retard sur les souhaits, les évolutions, le désir de progrès que la population exprime.
Dernière question aux députés La République En Marche, précisément, que vous êtes, et aux médecins également, Jean-Louis Touraine. Lundi doit avoir lieu à l'Assemblée nationale le débat sur l'immigration qui a été voulu par le président de la République. Il y a quelques jours, le gouvernement a ouvert la porte d'une réforme de l'aide médicale d'État avant que la ministre de la Santé ne tente de la refermer. Il n'empêche que dans le journal du dimanche de dimanche dernier, 805 médecins ont signé une tribune appelant à maintenir cette couverture santé destinée aux personnes étrangères sans titre de séjour et aux faibles ressources. Qu'en pense le médecin et député La République En Marche ? Est-ce que vous avez signé cette tribune ?
Non, j'évite de signer tribune parce que, en tant que parlementaire, le rôle est plutôt d'essayer de trouver la solution et le projet de loi.
Et pourtant, il y a 35 députés de la majorité qui ont signé une lettre ouverte aussi à la suite pour ne pas sacrifier, disent-ils, la santé publique sur l'autel des économies budgétaires. Toutes ne suivent pas votre recommandation.
J'ai parfois signé des tribunes sur certains sujets, y compris sur les aspirations à une évolution sur les conditions de fin de vie et des sujets d'importance. Donc, c'est tout à fait respectable de le faire. Le débat sur l'immigration va être reporté du fait du décès du président Chirac et au lieu d'être lundi, comme vous l'annonciez, ce sera au début octobre.
Mais qu'importe. Lundi, deuil national.
Ce sujet va être traité dès le début octobre et c'est très important. Et je pense qu'il nous faut effectivement assurer, c'est indispensable, la possibilité de soins à toutes les personnes qui sont sur notre sol, quelle que soit leur nationalité. C'est quelque chose de tout à fait important pour deux raisons. Pour ces personnes, par humanité. Et puis pour la santé publique, parce que quand il y a des personnes qui ont des tuberculoses à des germes résistants, des virus du sida et d'autres maladies, si vous ne les soignez pas, ils contaminent tous les gens qui sont autour d'eux. Donc ce n'est l'intérêt de personne que de laisser sans prise en charge ces personnes. Mais ça ne veut pas dire pour autant que tous les traitements leur sont attribués. Et d'ailleurs, les traitements qui font partie de l'AME, cette assistance médicale pour les étrangers, ils sont sur une liste, ce qu'on appelle un panier, c'est-à-dire un nombre de pathologies qui est relativement restreint. Quand on entend dire par des gens un peu farfelus que la PMA va être offerte à ces personnes, c'est faux. Il n'y a aucune prise en charge pour les gens qui relèvent de l'AME dans les questions de procréation médicalement assistée. C'est un mensonge. Donc, ce sont simplement des soins très essentiels qui leur sont attribués. Alors maintenant, qu'il nous faille mieux évaluer que nous l'avons fait dans le passé, les conditions dans lesquelles certains peuvent venir spécifiquement en France, introduits par des filières que certains appellent des trafics d'êtres humains, pour venir bénéficier de tel ou tel traitement, eh bien, c'est au rôle de nos pouvoirs publics que de contrôler et de démanteler les filières qui utilisent de façon inappropriée notre système de santé. Mais par contre, ceux qui sont en France et qui sont malades, je ne vois pas comment, humainement, on pourrait faire autrement que de les soigner.
Restez avec nous, Jean-Louis Touraine. Il est 8h48 sur France Culture et avec nous, nous entrons dans le dernier quart d'heure des matins du samedi.